Engageons ensemble cet après-midi une expérience de pensée. Imaginez un instant que la science ait révélé l'existence d'intelligence extraterrestre. Outre le fait que les médias du monde entier consacreraient leur une à cet événement gigantesque, très rapidement, cette découverte engagerait des discussions philosophiques et théologiques de première importance. C'est l'exercice auquel s'est prêté le théologien Jacques Arnoult dans un ouvrage « Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous ». Avec une question, la découverte d'une vie extraterrestre sonnerait-elle la fin des religions. Discussion que nous allons entamer dans un instant pour comprendre comment cette question de la pluralité des mondes a été abordée d'abord au cours de l'histoire des sciences et puis ce qu'elle provoquerait s'il était prouvé évidemment que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. J'attends vos messages et vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
85 cadavres de dauphins ramassés sur les plages de Charente-Maritime depuis jeudi. La question des échouages est donc aujourd'hui à la une de la science.
Oui, une triste moisson dont la pêche serait responsable. Les prises accidentelles dans les chaluts sont presque toujours fatales. Quelle est la part des hommes dans les échouages de cétacés? On en discute avec le bioacousticien Olivier Adam.
Stéphanie Texier réalise notre tête au carré de début de semaine préparée par Chantal Le Montagnier avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Jacques Arnoult.
Bonjour.
Vous publiez chez Albin Michel « Turbulence dans l'univers ». Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous prêter à cette expérience de pensée théologique en imaginant l'impact qu'aurait la découverte d'extraterrestres sur les religions ?
Pour une simple raison, c'est qu'il m'arrive très souvent, à l'issue d'une conférence qui parle de questions spatiales ou d'évolution ou de création ou de religion, on me pose « mais dites-moi, vous qui travaillez justement dans le domaine spatial, le jour où on découvrira des extraterrestres, ça va être la fin des religions ?» Et je réponds à cette question, bien sûr, parce que quand on me pose des questions, j'y réponds. Et j'ai voulu, une fois, prendre vraiment ma plume et essayer de, pour moi-même, de faire à la fois le parcours historique et puis en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, une expérience de pensée. Et si, effectivement, ils existaient, qu'est-ce que ça changerait?
Donc, on va se mettre pendant une demi-heure dans cette considération et admettre qu'ils existent.
Exactement.
Pour voir, évidemment, ce que ça pourrait changer. Et nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question. C'est aussi ce que vous évoquez dans cet ouvrage. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions et peut-être les témoignages, qui sait, sur franceinter.fr. Si vous avez vu des extraterrestres, vous nous intéressez.
La science de l'environnement. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
85 cadavres de dauphins ramassés depuis jeudi, donc sur les plages de Charente. Un triste record en moins de 2 jours. Que sait-on des échouages? Question donc posée à la une de la science.
Ce sont des animaux qui perdent un petit peu leur ce qu'on appelle l'écholocation, c'est-à-dire leur système de sonar, le système qui leur permet de se diriger. C'est normal que quand il y a beaucoup, beaucoup de vent et beaucoup de grosses mers, ça nous ramène des cadavres sur nos plages.
Voilà, c'était la voix de Christiane Anselme du réseau Échouage France qui réagissait au micro de France Inter. Donc ce matin, les côtes françaises qui reçoivent environ 1000 cadavres de cétacés tous les ans, dont plus de 800 qui nous viennent des côtes atlantiques. D'où viennent donc ces échouages? On en discute avec vous, Olivier Adam, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes bioacousticien et professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Et comme tous les lundis avec nous, Hervé Kempf, notre partenaire pour le magazine reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Que sait-on aujourd'hui, Hervé, de ces échouages de ce week-end? De quoi sont morts ces dauphins? On n'en sait plus ou pas?
On ne le sait pas encore tout à fait officiellement parce qu'il faut poursuivre les analyses de ces corps, de ces cadavres. Il y a une forte possibilité que ce soit lié à la pêche, c'est-à-dire à des captures par des filets de pêche profonds, puisque c'est une des causes fréquentes de ces échouages qui arrivent maintenant quand même fréquemment. La pêche est un principal cause, mais il y a aussi, ça peut être des morts naturelles, ce qui arrive quand même souvent. Ça peut être effectivement des perturbations du système d'écholocation. Alors, durant les grandes tempêtes, mais aussi par des sons d'origine humaine sous-marin qui deviennent de plus en plus fréquents, voire même par des tempêtes solaires, comme on va le voir. C'est un phénomène qui n'est pas seulement français. Très récemment, par exemple, en Algérie, il y a aussi eu des échouages de dauphins. Et puis, en Grande-Bretagne, on recense près de 2000 aussi échouages chaque année de cétacés.
Olivier Adam, alors là vraisemblablement c'est peut-être la pêche. Quelle est la part des hommes dans ces échouages? On arrive vraiment à tirer des proportions?
Alors il y a des échouages partout dans le monde. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que sur toutes les côtes il y a des échouages. Et en fait il y a plus d'une dizaine de raisons d'échouages. Alors évidemment celles qui nous intéressent les plus ce sont celles qui sont provoquées par des activités humaines. Parce que on est dans la mesure d'essayer de faire en sorte qu'il soit le moins nombreux possible Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'efforts, notamment en France, faits par les gouvernements successifs, que ce soit depuis Dominique Ouanet, M. Borloo, Ségolène Royal, sur le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de la mer, la mise en place de sanctuaires ou d'aires marines protégées. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Et le travail exceptionnel que fait le réseau d'échouage français, qui recense en fait tous les cétacés qui sont sur la plage, nous permet d'y voir plus clair sur la raison pour lesquelles les cétacés viennent s'échouer.
Quand on trouve une carcasse sur une plage, c'est vraiment facile de définir la cause de la mort de l'animal ?
C'est pas facile, mais ils font, enfin le réseau échouage fait des mesures, déjà identifie l'espèce, parce que il y a plus de 80 espèces de cétacés et elles vont toutes avoir des raisons différentes de s'échouer. Donc font déjà identifie l'espèce, identifie l'individu, font des mesures et puis font des prélèvements, des biopsies, enfin des de peau ou de graisse pour savoir par exemple si c'est une pollution chimique qui pourrait en être l'origine. Et par exemple dans les motifs d'échouage en France. Certains sont effectivement ce qui va être des interactions directes avec les pêcheries. Donc là, c'est si j'ai bien compris, pour les dauphins qui viennent de s'échouer, c'est l'hypothèse numéro un à l'heure actuelle, mais peut-être ça va être différent plus tard. Et puis, il y a aussi les collisions avec des bateaux, comme il arrive assez souvent en Méditerranée ou dans les Canaries, enfin voilà. Et puis, il y a aussi la pollution chimique avec les métaux lourds. Il y a une étude qui est sortie, par exemple, de l'excellent travail qui a été fait dans le Contentin sur les... par le GEC sur les dauphins de Contentin, où en fait on s'aperçoit qu'ils sont blindés de métaux lourds et donc probablement va fragiliser leur santé et leur reproduction.
Alors la NASA a dévoilé hier, c'est un hasard, un programme de recherche qui vise à éclaircir le lien entre certains échouages et des éruptions solaires. Vous trouvez ça sérieux ?
Alors c'est intéressant parce que c'est une nouvelle hypothèse, comme s'il fallait en rajouter une autre pour pouvoir avoir une raison des échouages. Après toutes les hypothèses sont envisagées, pourquoi pas celle-ci ? La difficulté, c'est que d'après ce que indique la NASA, c'est qu'il pourrait y avoir des perturbations électromagnétiques et qui pourraient venir perturber le système de repérage des cétacés dans l'eau. Ce qui, voilà, il va falloir, je pense, aller un petit peu plus loin. Ils sont prudents, hein, dans les conclusions qu'ils indiquent. Ils disent qu'ils commencent à travailler et que c'est une alternative qui pourrait être envisagée, mais ils restent extrêmement prudents. Et moi, je le serais aussi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les éruptions solaires, en fait, elles sont non-stop, et que de blâmer le soleil pour ça, ça me semble assez étonnant. Je pense que si jamais c'était avéré, ça serait quand même inférieur à toutes les activités humaines. Le bruit qu'on génère dans l'eau, le trafic qu'on fait, etc., pour la raison de l'échouage. Et deuxièmement, le système électromagnétique, les cétacés se repèrent avec le son, utilisent l'écolocalisation, là, comme la personne l'avait dit avant moi. Au niveau magnétique, je sais pas dans l'eau quelle la part on va leur, ils vont utiliser pour se repérer quoi et pour se déplacer.
On sait comment la NASA va faire pour, enfin les scientifiques vont faire pour vérifier cette hypothèse donc des éruptions solaires, Olivier Adam.
Et ils vont faire une corrélation entre les jours d'échouage et puis les activités solaires. Les activités solaires une semaine ou deux jours ou trois jours à l'avance, c'est comme ça que je pense qu'ils vont démarcher. Mais l'intérêt des Américains, c'est qu'ils sont, ils travaillent directement avec des biologistes, ils travaillent avec des cétologues, ils travaillent avec des gens de terrain. Mmh. Ils vont regarder les échouages et ça c'est très fort parce que si on laisse la NASA travailler tout seul dans leur coin, on pourra toujours trouver une corrélation. Quoi qu'il arrive, moi je peux vous corréler le nombre d'échouages avec le nombre de Twingo vendus en France. Mais à partir du moment où on est en prise contact avec les gens qui sont des experts des cétologies, oui. De cétologie. Là, par contre, on est obligé de confronter les hypothèses à eux, leur expérience de terrain et leur savoir et leur connaissance sur les cétacés. Et là, c'est beaucoup plus délicat de conclure. C'est très important sur ces sujets-là, comme les baleines, d'avoir des experts de différents domaines pour pouvoir travailler et mettre les hypothèses les plus fines.
Est-ce que des pertes de repères ou des problèmes de navigation peuvent vraiment entraîner la mort d'un animal ?
Oui, alors en fait, c'est une hypothèse qui est dans les causes naturelles, c'est des hypothèses qui sont avancées. Ça peut être la vieillesse, tout simplement, parce que bon, bah voilà, les cétacés sont en fin de vie, qu'à un moment donné, bah ils ont plus l'énergie ou le courage de se déplacer. Ça peut être la santé, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui doivent forcément être plus fragiles que d'autres, ou alors qui se sont moins alimentés dans les derniers jours ou dans les derniers mois, ce qui les fragilise. Donc là, toutes ces causes naturelles sont évidemment à envisager. Et une fois que par exemple, en France, sur les côtes françaises, il y a des rorquals communs qui ont été, qui se sont échoués, et la raison première avait été indiquée comme famine. Et en fait, la concurrence directe avec les pêcheries, la pêcherie industrielle notamment, elle est juste, elle est évidente parce que c'est les mêmes ressources sur lesquelles s'alimentent les cétacés que nous.
Alors, Hervé Kemp, une dernière question.
Ben, il y a aussi, vous le citiez rapidement, l'activité humaine, notamment par la génération de bruits sous-marins qui deviennent très puissants pour des applications militaires, pour des recherches pétrolières, pour de la recherche de bancs de poissons aussi. Est-ce que ça a un effet maintenant qui est bien avéré?
Alors exactement, la communauté scientifique s'est très structurée depuis les dernières années justement pour observer les effets, les impacts des activités humaines sur les cétacés. Alors c'est assez récent parce que il y a un consortium qui s'occupe du comportement qui s'est créé en 2010, donc c'est quand même pas si vieux que ça, mais enfin ils ont commencé à faire des travaux qui sont particulièrement intéressants en termes de seuil auditif, en termes de modification de comportement. Et donc, on part des observations, c'est-à-dire par exemple, on diffuse des sondes sonars à des cétacés et on regarde comment ils vont se comporter. On l'a fait sur du cachalot, on l'a fait sur du globicéphale, on l'a fait sur des orques, par exemple. Et après, on note et on regarde quel est leur seuil de sensibilité. Évidemment, on n'est pas là pour les tuer, on est simplement là pour voir comment ils réagissent, c'est-à-dire comment ils vont modifier leur comportement. Et après, on fait le lien avec des échouages qui se sont produits et dont on cherche les causes. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans les exercices de l'OTAN en 96, 98, 2000, avec des échouages de baleines à bec. Et donc on a fait le lien directement entre les sonars militaires et ces échouages-là. On fait pareil pour d'autres raisons comme l'utilisation d'airgun pour la géophysique ou la prospection pétrolière. On fait pareil lorsque maintenant c'est obligatoire, lorsqu'on veut construire des éoliennes en mer ou des hydroliennes, il y a forcément une mesure d'impact qui doit être mise en place en même temps, c'est-à-dire on observe les conditions dans lesquelles les cétacés sont à l'heure actuelle, et puis après on fait des estimations, des prédictions de ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir les protéger lorsque ces instruments seront en place.
Merci beaucoup Olivier Adam. Actualité cétacés chargée, puisqu'on peut signaler un cycle de conférences que vous organisez tous les mois à l'Aquarium de la Porte Dorée à Paris. Prochain invité, ce sera le 4 mars avec Christophe Guinet, qui reviendra sur les conséquences économiques et écologiques des interactions entre les orques et les cachalots. Et,
il a fait un travail justement qui est exceptionnel sur justement la déprédation des orques et des cachalots sur les palangres. Dans les passes, à creuser en l'occurrence. Et ça, c'est typiquement le travail intelligent qu'il faut faire, parce que les pêcheurs sont des gens intelligents. Et quand on fait des travaux scientifiques qui sont en lien avec les pêcheurs, nous, on ne dit pas qu'il faut arrêter la pêche, on dit qu'il faut l'adapter pour conserver et protéger les cétacés et protéger tous les océans, en fait. Hein, c'est le but de nos travaux.
Et puis un documentaire, Axel
Réalisé par Antonio Fischietti, qui vous a suivi à l'écoute des baleines autour de Madagascar. C'est à voir sur le site Universcience et c'est gratuit.
Voilà, et puis si vous êtes en Charente-Maritime ou ailleurs d'ailleurs et que vous trouvez une carcasse de cétacés, il y a un réseau à contacter, c'est le laboratoire Pélagis du CNRS au 05 46 44 99 10 et le numéro de téléphone est en lien sur le site de La Tête au Carré. Merci beaucoup Olivier Adam, merci Hervé. On retrouve ces infos dans reporter.net. Et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le microbiote intestinal qui nous protège des méfaits de l'alcool. On sait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on ignorait pourquoi certains buveurs excessifs développaient des maladies mortelles, comme des cirrhoses ou des hépatites, alors que d'autres souffrent seulement de stéatose hépatique, une accumulation de graisse dans les cellules. Selon une publication de l'INRA, cette disparité serait due à la flore intestinale. En comparant les microbiotes de différents patients, les scientifiques ont remarqué que ceux des patients présentant ces maladies graves étaient sérieusement déséquilibrés, déséquilibre qui entraînerait la déficience d'une bactérie produisant un acide qui nous protège de la toxicité de l'alcool. Certaines fourmis semblent ne jamais vieillir. C'est l'étrange constat d'une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Boston et du CNRS. En s'intéressant à la Phaeidolae dentata, les chercheurs ont remarqué que les fourmis ouvrières de cette espèce ne présentent aucun signe de déclin physique avant l'âge. Ainsi, les vieilles ouvrières sont aussi, voire plus performantes que les plus jeunes jusqu'à leur mort, qui est subite et arrive sans le moindre signe annonciateur perçu par les scientifiques. Cette absence de vieillissement intrigue les chercheurs car c'est une véritable exception pour la famille des insectes. Et puis le Ice and Salt Challenge, un phénomène dangereux. Le challenge de la glace et du sel, c'est un défi qui se propage chez les jeunes et qui consiste à tenir le plus longtemps avec du sel recouvert d'un glaçon sur le bras ou la main, puis de mettre la vidéo sur internet. Or, ce défi peut entraîner de sérieuses brûlures. En effet, le glaçon en contact avec le sel fond et surtout refroidit car le sel absorbe la chaleur du glaçon pour se dissoudre. La peau se retrouve alors en contact avec une eau liquide d'une température pouvant aller jusqu'à moins 20 degrés. Le risque d'engelure est d'autant plus risqué que le froid engourdit la zone exposée, atténuant la sensation de brûlure. Allez, Dieu et les extraterrestres, drôle de dossier dans un instant avec mon invité, le théologien Jacques Arnoux.
I'm unknowing. I'm never totally right. I'm gonna walk away slowly. Instead I bid you goodnight. Another goodbye. I'm gonna cry. Good. If I could sell about a dozen, I never dare that you would. I know that you would. Where that you could.
L'Observatoire du Vatican, à Rome, en Italie. 4 siècles d'histoire. Il a participé aux études astronomiques les plus pointues de leur temps. Aujourd'hui, il s'attaque au mystère de l'univers à l'aide d'un radiotélescope. Le directeur de l'Observatoire, le père George Coyne, est un astronome britannique. Il a toujours été intéressé par la vie extraterrestre et il n'hésite pas à évoquer cette éventualité d'un point de vue scientifique.
Si on découvrait que la vie, sous n'importe quelle forme, existe ailleurs que sur la Terre, cela nous ferait un choc. C'est évident pour tout le monde. Mais nous réfléchissons à une possible vie extraterrestre, et en ça, notre esprit est déjà bien différent de celui de l'Antiquité. Penser que la vie existe peut-être ailleurs, ce n'est pas sans conséquence sur notre conception de Dieu. Giordano Bruno avait raison, aujourd'hui on le sait. D'un point de vue scientifique, certaines de ses idées étaient exactes.
Voilà un son d'archives qui date du début des années 2000 et qui évoque donc l'Observatoire du Vatican. Jacques Arnaud, vous êtes notre invité cet après-midi dans l'émission pour la sortie de ce livre « Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous ». C'est chez Albin Michel et les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « L'attaque ». Un observatoire au Vatican,
c'est bien sûr, depuis fort longtemps, comme ça a été rappelé, 4 siècles avec... en même temps quasiment que la révolution astronomique, donc début du XVIIe siècle, et est toujours confié aux jésuites qui se sont toujours passionnés, énormément d'astronomes jésuites, ouais. Et puis passons à Matteo Ricci qui en Chine a justement pu entrer dans la société chinoise grâce à l'astronomie.
Ouais. Et est-ce qu'on attend des extraterrestres au Vatican alors ou pas ?
Non, pas spécialement, parce que de fait ça fait très longtemps que dans l'Église je dis pas qu'on a réglé la question, mais on a abordé cette question.
Ouais.
Donc ça fait partie du quotidien de se dire pourquoi pas un jour ?
Alors justement, il y a un premier courriel de Jean-Luc qui nous écrit ceci. Il me tarde que les extraterrestres pointent leur nez pour remettre les religions à leur place, c'est-à-dire au placard. Voilà, c'est Jean-Luc qui nous souhaite une bonne journée. C'est pas vraiment pour ça que vous avez écrit votre livre, en tout cas.
Si, entre autres pour ça.
Parce que c'est pas pour mettre les religions au placard.
Non, mais parce que j'ai souvent entendu cette expression-là, que je comprends parfaitement. C'est vrai que beaucoup de religions religions, pas toutes, mais beaucoup des religions, en tout cas celles que nous connaissons le mieux en Occident, sont tellement anthropocentrées que l'on se dit, le jour, il va y avoir un vis-à-vis un peu intelligent qui va débarquer.
Il y aura une grosse blessure narcissique.
Voilà,
quand même, hein.
Exactement. Ouais. Et donc, je suis d'accord avec notre auditeur. Le jour où on a un vis-à-vis un peu intelligent, peut-être même plus fort que nous, notre narcissisme, ira au placard. Et ça, ça nous fera du bien.
Oui, mais vous, en tant que chrétien, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette question, justement?
Justement, ça, c'est-à-dire de nous remettre à notre place. Parce que nous avons tellement l'habitude, en particulier dans nos religions occidentales, de nous considérer comme étant le centre de l'univers. Même si Copernic est passé par là, même si Galilée, nous nous considérons comme le centre de l'univers, que c'est d'une manière excessive et ça fait du bien d'une manière ou d'une autre, par exemple à travers des extraterrestres, mais il y a d'autres manières d'ailleurs de le faire, de nous remettre à notre place. Non pas pour dire, finalement nous ne sommes rien du tout. Je suis pour que nous retrouvions notre singularité. En quoi nous sommes singuliers par rapport à d'autres êtres qui, eux aussi, peuvent exister, peuvent être intelligents, peuvent avoir une culture, peuvent exister en face de nous.
Oui, alors justement, vous vous posez cette question dans cet ouvrage, un moment en plus où cette discipline, l'exobiologie ou l'astrobiologie, on peut utiliser les deux termes, avance quand même à pas de géant, et où on est à un moment un petit peu charnière, parce qu'il semblerait qu'on soit quand même quasiment à la veille d'une découverte, peut-être pas d'une intelligence extraterrestre, mais de traces de vie ailleurs.
Alors, c'est vrai que les scientifiques accumulent depuis une vingtaine d'années, voire même une trentaine d'années, énormément d'éléments qui vont plutôt en faveur d'une possible découverte de vie extraterrestre. Mmh. En biologie, ça a peut-être commencé par la biologie, c'est tous ces travaux sur les extrémophiles dont vous avez souvent parlé dans vos émissions, donc toutes ces formes de vie déjà sur Terre, dans des endroits où nous n'imaginions pas trouver de la vie.
Capable de s'adapter à des conditions extrêmes.
Exactement, tout à fait, d'où extrémophile. Mmh. Et donc déjà, et bien souvent, ce sont des astronomes qui, s'interrogeant sur les possibilités de vie sur Mars ou sur d'autres planètes de notre système solaire, se sont dit, allons voir sur Terre des situations à peu près analogues et voyons, est-ce qu'il y a de la vie, premièrement, et s'il y a de la vie, quelle forme elle a. Et nous en avons trouvé. Donc là, des découvertes tout à fait étonnantes. Déjà sur la vie terrestre. Donc, qui ouvre le panel de ce que nous appelons la vie, qu'il a ouvert de manière assez importante. Mmh. Donc ça, c'est l'aspect biologique. Et du point de vue de l'astronomie, c'est bien sûr depuis 1995, donc à peine plus de 20 ans, la découverte d'exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que la nôtre. Ouais. Et ça, ce sont aujourd'hui 3500 planètes qui sont certifiées, plus des milliers qui sont en cours de certification, si je puis dire. Et surtout, ce qui est important, c'est que les premières étaient plutôt grosses, gazeuses, qui, bon, ne ressemblaient pas tellement à notre Terre, mais au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, des technologies, l'avancée classique de la science, je dirais, elles deviennent, ces planètes, de plus en plus proches de la Terre. Et ce qui fait effectivement espérer trouver des formes de vie proches de l'autre. On est à l'avant-veille, ou peut-être pas. C'est ça quand même la question. La question demeure aujourd'hui totalement ouverte.
Alors, 1995, effectivement, la découverte de la première exoplanète, Didier Queloz et Michel Mayor, depuis l'Observatoire de Haute-Provence. Et là, un bouleversement, parce que c'est quand même incroyable qu'avant 1995, on n'ait jamais pu identifier de planète en dehors de notre système solaire, tournant autour d'une étoile également. Là, on en a enfin la preuve. Donc, déjà à l'époque, ça pose beaucoup de questions. Mmh. Et je vous propose d'écouter justement Alain Sirou, le rédacteur en chef de Ciel et Espace, et Georges Schneider, astrophysicien, qui, juste au moment de la découverte, discutait des perspectives offertes par l'identification de la première exoplanète.
De toute façon, l'affaire est très sérieuse. C'est un objet extraordinaire. Même si c'est une micro-étoile, c'est la première fois.
Alors, ça, on vient quand même de découvrir. Enfin, on peut en donner le mérite à cette équipe de chercheurs suisses. Hein.
Qui a fait les observations à l'Observatoire de Haute-Provence. Et donc, il faut aussi rendre hommage au fait que...
tout le monde se pose la question. Bon, bien entendu, si c'est une planète, on commence à extrapoler. Y a-t-il de la vie? Quelle forme de vie? Est-ce qu'il y aurait des êtres doués d'intelligence, etc.? Bon, ces questions, bien entendu, un peu tôt, quoi.
Il y a deux voies de recherche, finalement. Il y en a une qui a été abandonnée, l'autre qui est suivie. La première voie de recherche était d'aller à la pêche à la ligne. Vous vous souvenez peut-être du nom du programme SETI, qui consistait à dire « les extraterrestres existent, donc on va écouter le ciel, et puis un jour, on captera bien quelque chose ». Bon, ce projet qui a été lancé par un centre de radioastronomes a été officiellement abandonné, en tout cas par la NASA et par les gens qui, les laboratoires qui soutenaient. Et l'autre projet est une grande quête. Et cette quête, elle est en voie d'aboutir. Alors, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à chercher des planètes autour d'autres étoiles. Mais il ne faut pas se leurrer. Il faut être très clair. on ne verra pas dans un premier temps, quand on verra quelque chose, une planète de la taille de la Terre. C'est trop petit, c'est noyé dans la lumière de l'étoile. Donc on verra des planètes géantes.
Donc si on trouve des planètes, elles seront forcément plus grandes que les nôtres.
Ah oui. Ah oui, très clairement.
Donc s'il n'y avait jamais des êtres doués d'intelligence, ils seraient sans doute extrêmement nombreux, donc ça serait éventuellement extrêmement inquiétant.
Voilà, cet échange intéressant, 95, au micro de Gilbert Denoyant, Jacques Arnoux. Alors c'est amusant parce que déjà les choses ont beaucoup changé depuis 95. Hein. On voit que là, les archives sont vraiment datées. Hein.
Il pleut des planètes, comme dit Alfred Villa-Maljar, et c'est vrai que... On est dans un exemple sans doute classique dans le développement des sciences. Il n'y a pas grand-chose, il y a des hypothèses, et puis brutalement un événement, une première découverte qui à la fois conforte un certain nombre d'hypothèses et vient aussi créer des vocations, si je puis dire. Et puis surtout une méthode que l'on met en place, d'autres méthodes qui viennent compléter.
Ouais.
Et ce qui me semblerait important, sans faire nécessairement toujours référence à l'histoire, mais rappelons-nous ce qui s'est passé au XVIIe siècle avec les premières observations de Galilée et la révolution quand brutalement s'est dit « mais le ciel qui est autour de nous, c'est la même chose que sur Terre ». Alors autour de nous, c'est resté encore le système solaire. Malgré tout, un changement de regard tel qui a provoqué la révolution, enfin la naissance de l'astronomie moderne. Et toute proportion gardée, quand en 95, on découvre la première exoplanète, ça signifie donc que les étoiles que nous voyons le soir autour de nous sont aussi des systèmes stellaires possibles.
Ouais.
Donc, brutalement, l'unicité de ce que nous vivons dans notre système solaire devient une singularité parce que ça reste quand même singulier.
Mais plus une rareté, en tout cas. Non,
voilà, c'est plus unique. Et en même temps, ce que nous disent les astronomes, c'est que toutes ces exoplanètes ont aussi, la découverte, ont aussi provoqué des révolutions parce que nous imaginions que tous ces systèmes stellaires devaient avoir à peu près le même look, si je puis me permettre de parler comme ça, que notre système solaire. Et de fait, ils découvrent des systèmes complètement différents. Donc, à nouveau, on réouvre les possibilités.
Et justement, Michel Mayor lui-même disait en 95, il est de plus en plus difficile d'imaginer que la Terre soit le seul havre de vie du cosmos.
Bien sûr.
Puisqu'on découvre ces moissons de planètes.
Bien évidemment, avec toutes les prudences qu'il faut rajouter.
Allez, vous restez avec nous, Jacques Arnoux, vous êtes notre invité cet après-midi. Des messages pour vous qui interpellent sur le site de La Tête au Carré. Je vous les transmets dans un instant pour parler de Dieu et des extraterrestres. Terrestre.
Qui me quitte, c'est moi qui quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Quand ils ont gris bord de bombardier, j'vais te casser le dos, pas te mailler. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme autre tchou, mais oh, j'suis médaillé. Pas mon lance, négro, allez, dalle. La cuenta fut très très sale. Ta Allah, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, fait des dégâts. Je n'entends pas douter ces hyènes. J'suis pas en plein de thieboudienne. Même noir, j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Sers-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler. Madame la juge est lente de rage. Je comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler. Passe-moi les masses à Mamakosa, FLO, Mara, Salvatrocha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hyper que de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier, j'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré, elle a gâté le rôle.
première ou arrière des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs.
Et c'est Booba à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous, chez Albin Michel Jacquarnaud. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, théologien, et vous êtes chargé de mission au CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales. Vous travaillez sur l'éthique. Quel est le lien entre la théologie, l'éthique et le spatial, justement?
J'allais dire, c'est d'abord une histoire personnelle qui a fait que j'ai eu la chance d'avoir la confiance des directions successives du CNES pour essayer d'introduire la question du pourquoi. Pourquoi aujourd'hui avons-nous des programmes spatiaux en France et dans le monde, et aussi en quoi ça vient nous changer, concerner nos sociétés, d'abord d'une manière immédiate à travers des technologies, mais peut-être aussi dans notre manière de nous considérer nous humains, de nous considérer humains sur cette Terre. Pensez à tout ce que nous avons pu dire au moment de la COP21 et tout ce qui est aujourd'hui les enjeux entre les changements climatiques et l'espace. Et puis aussi, lorsque l'on voit aujourd'hui notre ami Thomas Pesquet dans sa station, et puis aussi l'exploration spatiale, comment tout ça nous concerne chacun d'entre nous dans notre être humain. C'est ça qui est mon quotidien.
Et donc, en l'occurrence, dans cet ouvrage, on le disait tout à l'heure, une expérience de pensée. Alors, vous partez du principe qu'il existe des extraterrestres. Hein, voilà. C'est vraiment le but, le cœur de cette expérience de pensée. Et du coup, est-ce que ça remet en cause ou pas les religions monothéistes? Marcel nous dit ceci: je suis convaincu que la découverte d'extraterrestres n'aura pas d'influence sur la croyance des foules. Il n'y a pas de relation entre la foi et la raison. La foi est une conviction intime non raisonnée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bien, l'enquête historique que j'ai menée, même si elle est assez synthétique, montre quand même que depuis au moins le XIIIe siècle, il y a eu énormément de débats sur ce sujet-là.
Bien sûr.
Et où certains ont pu effectivement défendre l'idée de notre auditeur en disant c'est un aspect privé, et puis finalement tout ce qui est autour de la foi, la réalité finalement ne touche pas vraiment à la foi profonde, alors que d'autres en ont fait vraiment un cheval de bataille, soit au nom de la foi pour dire eh bien il ne peut pas exister d'autres êtres vivants ailleurs que sur Terre parce que Dieu a choisi ces êtres, en particulier ces êtres humains, alors que d'autres en ont fait un cheval de bataille contre la religion en disant il est évident qu'ailleurs existent des êtres et ça montre très bien que Dieu n'existe pas. Donc je crois que là, chacun est libre évidemment de penser, de croire selon son désir, mais au moins l'histoire nous apprend que c'est une question qui a été très largement débattue.
Alors cette question de la pluralité des mondes en particulier, un grand thème justement des problèmes encyclopédiques avec Épicure, Aristote par exemple, pour prendre deux points de vue totalement opposés. Épicure qui croit véritablement en la pluralité des mondes, alors qu'Aristote, lui, est sur l'unicité justement du système Terre.
Et ce qui est étonnant, c'est que derrière, c'est pas seulement dire, voilà, il y a des petits hommes verts où il n'y en a pas, c'est qu'il y a aussi une conception profonde de l'univers et de son histoire. D'un côté, Épicure qui pense que toute la formation de l'univers est liée au hasard et des phénomènes aléatoires qui créent, qui fait disparaître des mondes comme ça en un instant.
Est-ce qu'il est darwinien avant l'heure, au fond, Épicure?
Non, on n'est pas darwinien, on peut plus se demander comment Darwin, est-ce qu'il est allé regarder Épicure? Il est clair que Darwin, c'est... qu'il l'ait voulu ou pas, s'inspirer de avait des racines philosophiques très profondes. Et donc, d'un côté, ce côté plutôt le monde grouillant de vie, même extraterrestre, est très lié à un aspect un peu chaotique. Ouais. Et d'autre côté, Aristote, avec un seul monde, une seule terre, quelque chose d'ordonné, quelque chose de déterminé. Donc, avec cet exemple-là, nous voyons bien que à travers « ils existent, ils n'existent pas », il peut y avoir deux écoles de pensée philosophiques parfaitement opposé. Ouais.
Alors, il y a une question qui met longtemps, finalement, avant d'être réellement abordée. Alors, on peut parler de la pluralité des mondes, mais la question de la vie, justement, elle-même dans d'autres mondes, ça, on y va plutôt à tâtons, quand même, jusqu'au Moyen-Âge, à peu près?
Oui, même au-delà. C'est vrai que, comme vous, l'expression que vous utilisez à l'instant, la pluralité des mondes habités, mais il ne semble pas qu'on fasse tellement la différence entre les deux. Nicolas de Cuse, un prélat extrêmement connu de l'Église catholique, ose sans aucun problème écrire un ouvrage dans lequel il parle des habitants de la Lune, qui sont évidemment lunatiques, des habitants du Soleil, qui sont au contraire personnalité évidemment solaire. Alors il est prudent dans la manière de présenter cela, mais pour lui, c'est pas un problème supplémentaire. Les mondes sont, j'allais dire, quasiment nécessairement habités.
Donc là, on est à la Renaissance. Hein.
Et on est à la Renaissance, 1400, milieu du 15e siècle.
Et puis donc le 17e, Giordano Bruno d'abord, Galilée ensuite, et le rôle très important de ces deux figures emblématiques, Giordano Bruno en particulier, dès 1584 d'ailleurs, son arrivée à Oxford, et il adhère aux idées de Copernic et il propose une véritable nouvelle idée de l'univers.
Il cosmo, uno eterno infinito.
Le cosmos, un, éternel et infini. Et la Terre est un des mondes, et nous à sa surface, nous les formes, gravitons autour du Soleil sans en prendre conscience.
Senza accorgercene.
À une nouvelle vision du cosmos doit correspondre une nouvelle conception de l'homme. Si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, comme les autres planètes tournent autour du Soleil, s'il y a d'autres systèmes solaires dans l'univers, si cela est vrai et c'est vrai, alors Dieu n'est pas au-dessus de nous, hors du monde, mais partout, dans chaque particule de matière, inerte ou vivante. Il est la matière même.
Voilà, Giordano Bruno, hein, donc dans ce film. Quelle modernité quand même dans la conception même du monde et du cosmos,
oui,
Jacques Arnaud.
Et en même temps, les historiens disent souvent que Giordano Bruno, c'est le dernier des anciens. Il est vraiment à la charnière, donc en fonction de votre tendance, vous allez dire que c'est le premier des nouveaux ou le dernier des anciens. C'est clair quand même qu'il est... Il est très fortement, c'est un très bon connaisseur des traditions philosophiques, mais aussi, comme vous l'avez précisé, des découvertes scientifiques. Donc, il s'appuie sur Copernic, et l'enjeu est énorme. Et vous l'avez entendu, c'est un des tout premiers mots. L'univers est un et infini. Et quand on dit ça, on mérite le bûcher sur lequel il est passé, parce que seul Dieu est un et infini au regard de la foi chrétienne qui est la sienne. Et donc, dès lors qu'il a énoncé cela, il se savait condamné. D'autant plus qu'il l'a affirmé, réaffirmé, même devant ses juges.
Alors, Galilée est plus prudent, lui, dans ses écrits, par rapport à Bruno. Il a l'expérience de ce qui s'est passé.
Parce que Bruno a été brûlé en 1600, et Galilée, a ses observations en 1609, 1610. Donc, il arrive une dizaine d'années après, au niveau des observations astronomiques, et donc tous ceux qui vont suivre Bruno...
Descartes aussi, d'ailleurs.
Descartes encore après. Tous, ils vont être extrêmement prudents, parce qu'ils voient très bien quelle est la menace.
Alors évidemment, il y a cette histoire des sciences qui est très intéressante. C'est d'ailleurs en gros la première partie de votre livre, où vous revenez vraiment sur cette conception de la pluralité des mondes. Il y a des choses assez amusantes, puisque vous racontez par exemple comme anecdote que certains s'attellent même au recensement des mondes habités. C'est le révérend Thomas Dick, par exemple. Alors il propose un chiffre très précis.
Exactement.
Et du nombre d'âmes dans l'univers.
Mais c'est-à-dire que à partir du moment où vous avancez des éléments qui sont dits scientifiques, parce qu'on va compter le nombre de planètes, on peut aller très loin. Vous vous souvenez très bien d'un autre dossier sur lequel nous avons parlé, sur les créationnistes, qui vont également calculer le jour et l'heure même de la création. C'est-à-dire qu'à un moment donné où la conviction est les convictions sont respectables à un certain point, mais vous amène à faire des calculs et à penser que plus ce sera précis, plus allez-vous imposer.
Vous serez crédible.
Donc, or là, nous sommes vraiment dans une question extrêmement ouverte.
Alors justement, vous répondez d'une certaine manière à cet auditeur, à Pierre, qui nous écrit que les religieux s'interrogent sur la science, c'est tout à fait leur droit, mais de grâce que la science n'appelle pas la religion à la rescousse. S'il y a suffisamment de religieux qui essaient de s'immiscer dans le débat scientifique, surtout actuellement, les créationnistes américains, les extrémistes islamistes, il est toujours dangereux de faire croire que les religions devraient influencer le débat scientifique.
Absolument. Et c'est évidemment, je souscris à cette affirmation. Et d'ailleurs, mon propos est bien de me dire, d'un point de vue théologique, et en faisant confiance à l'avancée des sciences, qui aujourd'hui nous dit, effectivement, nous avons dit il y a un instant, la possibilité d'une vie extraterrestre n'a jamais été aussi grande. Ça ne veut pas dire qu'on l'a trouvée. Donc je fais un pas en avant avec cette expérience de penseur. Eh bien, je pose qu'ils existent, mais je ne m'interroge absolument pas et je ne pose aucun avis sur qui ils sont, où ils sont, quel est leur niveau d'intelligence ou de culture. Je reste tout à fait sur l'aspect théologique dans la tradition qui est la mienne.
Jacques Arnoux, il y a des questions très intéressantes qui sont déjà arrivées là aussi sur le site de La Tête au Carré. Je vous les transmets dans un instant parce qu'elles sont justement au cœur de votre ouvrage. Turbulence dans l'univers, c'est chez Albin Michel et vous nous écrivez toujours sur le site franceinter.fr. I can see clearly now. Jimmy Cliff sur France Inter. Bonne chanson pour notre sujet aujourd'hui sur les turbulences dans l'univers. Est-ce qu'on y voit clair sur Dieu, les extraterrestres et nous? C'est chez Albin Michel, Jacques Arnoux. Ça fait beaucoup discuter en tout cas, hein, ce thème aujourd'hui sur le mail de la tête au carré. D'abord Michel, il me semble que le bouddhisme pourrait s'en sortir mieux que les autres religions, justement sur l'acceptation de la pluralité des mondes. Quel est votre
alors, effectivement,
avis là-dessus?
Toutes les religions ne sont pas dans la même situation vis-à-vis d'une telle expérience de pensée.
Ouais.
Et des religions comme le bouddhisme, avec une vision cosmique aussi bien dans l'espace et dans le temps, avec des échelles beaucoup plus grandes que celles dont le christianisme, par exemple, a l'habitude, se trouve plus à son aise, d'autant plus que l'être humain est moins séparé, moins singularisé que les autres êtres vivants. Donc, lorsqu'on interroge les bouddhistes sur cette possibilité d'extraterrestres, ils ont effectivement une plus grande ouverture à cette possibilité.
Ouais. Des enquêtes ont été menées, d'ailleurs. Hein.
Absolument. Et plusieurs enquêtes, surtout aux États-Unis, aussi bien par des théologiens, je pense à Ted Peters, qui est un ami par ailleurs, ou un psychologue, Douglas Vakoche, qui est également un ami, parce que c'est une communauté, mais nous sommes assez nombreux à nous intéresser à cette question. Lorsqu'ils interrogent, il y a quand même un aspect supplémentaire qui s'ajoute à ce que je viens de dire.
Mm-hmm.
Il peut y avoir donc différence entre les traditions, mais également parmi les croyants de chaque tradition. Et c'est vrai que un croyant un peu fondamentaliste, littéraliste, qui lit son texte sacré à la lettre, il aura plus de difficultés parce que c'est par rapport à l'hypothèse extraterrestre, parce qu'elle n'apparaît pas immédiatement, immédiatement dans ces textes sacrés, qu'un croyant peut-être plus ouvert, je n'oserais pas dire progressiste, mais qui a une lecture moins littérale, qui est moins fondamentaliste, et ça dans toutes les religions. Donc si bien que les enquêtes montrent que vous soyez chrétien, musulman, juif, ou bouddhiste, ou hindouiste, si vous avez un esprit ouvert, vous êtes prêt, alors, je vous dis pas à vous adapter, mais en tout cas, vous laissez interroger par cette question-là.
Alors, il y a des questions très concrètes aussi, reliées au texte, évidemment, qui sont là pour discuter de cette question des extraterrestres. On va écouter justement l'extrait du film Noé, qui était sorti en 2014 pour parler de la Genèse.
Au commencement, il n'y avait rien. Rien que le silence d'infinies ténèbres. Mais dans un frémissement face au vide, le souffle du Créateur murmura « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Et la lumière était bonne. Le premier jour. Et puis la lumière sans forme commença à prendre de la substance et une forme. Un deuxième jour. Et notre monde était né. Notre fragile et magnifique demeure. Une forte et chaude lumière nourrissait ces jours. Et une lumière plus faible régnait sur les nuits. Il y eut le soir et le matin, un autre jour. Et toutes les eaux du monde se rassemblèrent. Et au milieu d'elles, émergea la terre ferme. Un autre jour passa. Et la terre fit sortir les choses qui poussent. Une épaisse couverture verte s'étendait sur toute la création. Et les eaux aussi foisonnèrent de vie.
Voilà, extrait du film Noé, sorti en 2014, Jacques Arnoux. Puis si on parle du principe de la pluralité des mondes, imaginons une seconde Genèse aussi.
Exactement.
Par exemple, expression que vous citez dans ce livre, d'où elle vient d'ailleurs?
Moi, je la rencontre sous la plume de scientifiques, qui est de manière assez étrange d'ailleurs, parce que quand on voit l'utilisation créationniste du texte, même de la Bible, je ne dis pas que c'est malvenu, mais ils veulent dire par là qu'il faut effectivement sérieusement envisager ce même récit, en tout cas cette mise en scène, en plus là on est au cinéma, d'apparition, de formation sur d'autres planètes, de quelque chose que nous pourrions appeler la vie, ou des êtres vivants, parce que poser la question à un philosophe, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'être vivant, ou même un biologiste, chacun a sa définition.
Mais alors si on prend les textes justement, concrètement, imaginons Adam aussi, est-ce que Adam a un double, un alter ego, un alternatif extraterrestre?
Mais pourquoi pas? C'est exactement ça qu'il faut se dire, pourquoi pas? Alors, et moi, donc dans ma démarche, vous l'avez dit depuis le début de cette émission, j'ai dit...
Vous partez du principe qu'il y a des vies extraterrestres.
Ne me demandez pas quelle allure il a, c'est pas mon problème, me demandez pas où, quand, comment, simplement que me parvient, ou je pose l'hypothèse qu'ils existent. Et à partir de là, en quoi moi je suis concerné? Parce que c'est toujours la même chose, on se pose des questions sur l'autre. Mais moi-même, en quoi ça va me changer quelque chose? Et en particulier, puisque c'est le propos de la bonne partie de mon ouvrage, en quoi le croyant que je suis peut se trouver concerné? On a commencé, et vous m'avez déjà interrogé là-dessus, la première chose, c'est déjà par rapport à cette religion chrétienne très anthropocentrique, très, en plus, presque égocentrique. Il y a des périodes dans l'histoire du christianisme où la seule chose, c'est le salut de mon âme, et la mienne, la vôtre peut-être, Mathieu, mais pas sûr. D'abord la mienne. Bon. Et là, brutalement, on dit, attendez, c'est pas seulement les âmes humaines, mais il y a peut-être des autres âmes ailleurs. Donc, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir. Mais donc, ça relativise les choses. Ça ne veut pas dire que ça les fait disparaître. Simplement que nous existons au regard d'autres, en relation avec d'autres. Et je crois que ça, c'est une démarche absolument indispensable. Et nous le savons bien aujourd'hui, y compris sur Terre.
Oui. Alors justement, il y a vraiment des messages intéressants. D'abord, Nico qui nous dit ceci sur Facebook. Et que se passerait-il si des extraterrestres débarquaient avec les mêmes croyances en Dieu, les mêmes théologies que celles en place sur notre planète? Vous la posez, cette question?
Bien sûr. Alors, là, c'est sûr que les théologiens auraient un travail extraordinaire. Parce que ça évidemment, ça entraînerait la suite dans une certaine direction, en se disant, donc, ça veut dire qu'il y a plus que des analogies, des ressemblances. Les biologistes, s'ils trouvaient une vie parfaitement analogue sur Mars ou ailleurs, auraient le même genre de questions. Mm-hmm. Ça veut donc dire que on est dans une certaine diversité, mais avec des bases communes. Donc là, la même chose se poserait en termes de théologie.
Oui.
Si vous voulez, ça c'est une forme de théologie fiction dans laquelle, oui, pourquoi pas. Mais déjà le fait qu'ils existent. Pour un chrétien, ça va poser la question, eh bien, quand on lit, ah oui, la suite du récit du film Noé que nous avons entendu, c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Alors, ça, dans une certaine lecture, c'est, ah, donc l'homme est unique. Pas du tout. Mmh. On dit qu'il est créé à l'image de Dieu, lui, l'homme. Mais qu'est-ce qui empêcherait Dieu de créer d'autres êtres vivants à son image? C'est-à-dire ne pas vouloir que tout soit fait pour soi. Ça, c'est la grande tendance humaine.
Et la question du Christ, alors? Un Christ aux dimensions cosmiques, pour reprendre Teilhard de Chardin, par exemple.
Ben oui, c'est là qu'évidemment la mention de Teilhard est un peu inévitable. Non pas qu'il soit le premier, mais c'est lui qui, au XXe siècle, renoue avec une vieille tradition qui est impressionnante, celle des pères de l'Église. Nous sommes aux premières décennies de l'Église, où dans un lieu particulier, qui est la Palestine, un événement étonnant qui est la passion, la résurrection, et ces pères de l'Église tout de suite sont soucieux de dire cet événement-là, il n'est pas limité à une petite portion de la Terre, ni même à la Terre, ça a une dimension cosmique.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens en tout cas, que nous pouvons revisiter et qui me semble précisément une porte possible par rapport à cette question de la dimension cosmique du christianisme, une porte possible, une porte presque imposée aujourd'hui. Même avant de trouver la vie extraterrestre, l'image que nous avons aujourd'hui de l'univers, qui est effectivement un et infini, comme disait Giordano Bruno, eh bien, à cela, la question, elle nous est posée, est-ce que, toi, chrétien, tu adhères ou pas à ce qui appartient à ta propre tradition, qui est cette idée que le Christ n'est pas seulement le Christ des petits terriens que nous sommes, mais le Christ du cosmos.
Alors, il y a quand même une critique des religions monothéistes qui est très claire. Vous prenez le prétexte au fond des extraterrestres, mais c'est une critique aussi précisément sur ce que vous disiez de notre anthropocentrisme permanent.
Oui,
et donc, c'est une invitation aussi à moderniser les religions
Pas moderniser, parce que, oui, je pourrais dire moderniser si je voulais jouer au révolutionnaire, et je viens de vous dire à l'instant que les pères de l'Église, au début même de la tradition chrétienne, ont tout de suite mis la barre très haute, puisqu'elle l'ont mis au niveau cosmique.
Jacques Arnoux, allez, on termine très rapidement. D'autres questions. Louise dit, est-ce que les chrétiens n'ont pas admis depuis longtemps la présence des extraterrestres en évoquant la visite des anges?
Alors, c'est une excellente question qui, au moins en tout cas, il y a d'autres êtres vivants, je l'évoque rapidement, dans le monde créé par Dieu. Mmh. Et les anges sont effectivement des êtres, alors vivants à leur manière, c'est des esprits, on ne dit pas qu'ils ont des corps, etc. Mmh. Mais c'est vrai que la tradition chrétienne possède, à sa manière, cette capacité à penser d'autres que nous.
Aurélie nous dit, l'image des interrogations spirituelles à l'égard d'une possible vie extraterrestre n'est-elle pas directement liée à l'idée que Dieu siège dans les cieux et donc appartient de fait aux extraterrestres? Tout extraterrestre devient ainsi un dieu potentiel ou un messie.
Alors c'est le risque au contraire, je dirais. C'est que, en tout cas le risque, la question, est-ce que les autres ne sont pas nécessairement dieux? Et pour un chrétien, Dieu reste le tout autre. Les autres peuvent devenir des idoles, on peut en faire des idoles, et ça, il n'y a pas besoin d'être d'ailleurs un extraterrestre, nous avons nos idoles sur Terre, et le message des religions, de beaucoup de religions, pas seulement la religion chrétienne, c'est attention, ne confondez pas le Dieu tout autre avec les idoles que vous vous créez à votre image, le plus souvent.
Merci beaucoup Jacques Arnaud. Turbulence dans l'univers, turbulence dans nos pensées aussi avec ce texte « Dieu, les extraterrestres et nous », c'est chez Albin Michel, c'est un ouvrage qui vient de paraître. Merci à vous d'être venu nous en parler cet après-midi. Beaucoup de réactions en tout cas
oui,
sur
merci,
le site.
Merci.
J'invite les auditeurs à se répondre encore sur les commentaires sur franceinter.fr pour poursuivre la discussion. Merci à vous Jacques Arnaud.
Merci.